Dans toutes les maisons, il existe des endroits qui sont peu fréquentés, comme le grenier, sous la descente d'escalier, ou encore un recoin sombre, difficile d'accès. Il en est de même, de la part des croyants, concernant certains livres des Écritures saintes. Dans le Nouveau Testament, la seconde épître de Pierre est un texte peu visité et qui ne fait pas souvent l'objet de prédications, d'études ou de discussions. C'est bien dommage, car Pierre l'a écrite dans le but d'aider les fidèles à Jésus-Christ, d'une part à discerner tout ce qui relève du mensonge dans les domaines spirituels, et d'autre part pour leur rappeler certaines vérités essentielles. Sachant que le nombre de loups religieux irait en se multipliant, Pierre a voulu exposer au grand jour les apostats, les faux frères, tous ceux qui enseignent le mensonge, afin d'alerter les croyants contre les idées empoisonnées qu'ils répandent. La seconde épître de Pierre surprend un peu par son caractère polémique. Pierre commence par parler d'histoires habilement inventées de la part d'imposteurs religieux, puis il s'élève contre ceux qui font une interprétation personnelle des Écritures, et enfin, il attaque de front les faux frères en les qualifiant de prophètes de mensonges et de moqueurs, un thème qui occupe une grande partie de l'épître. L'apôtre Pierre n'adhère donc pas du tout au principe comme quoi tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Il n'éprouve pas le moindre scrupule à dénoncer vertement les imposteurs qui menacent le troupeau bien-aimé de Dieu. Il les reconnaît pour ce qu'ils sont, des loups féroces, ayant l'apparence d'agneaux qui cherchent à tromper le simplet et l'ignorant en le séduisant par des mensonges. Ce qui rendait ces faux frères particulièrement dangereux est qu'ils avaient fait profession de foi chrétienne et qu'on leur faisait donc confiance. Mais ce n'était qu'un vernis, un habit de carnaval qu'ils portaient, car en réalité, ces hommes reniaient le Christ et vivaient comme des païens purs et durs qu'ils n'avaient jamais cessé d'être. Pierre ne mâche pas ses mots, puisqu'il dit d'eux, il confirme la vérité de ses proverbes, le chien retourne à ce qu'il a vomi, et la truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue. Dans sa diatribe, Pierre rejoint Jude, qui est tout aussi mordant. En fait, ces deux auteurs sacrés condamnent le nouveau mouvement syncrétique qui est né de la rencontre du christianisme naissant avec le paganisme gréco-romain et le judaïsme. Un siècle plus tard, ces idées farfelues et dangereuses formeront l'une des branches du gnosticisme, une doctrine dualiste qui considère que la matière et le corps font partie du mal et que tout ce qui relève de l'esprit est bien. Certains de ses adeptes s'appelaient les Nicolaïtes. Ils sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Amateurs de sensations fortes, d'une part, ils recherchaient des expériences ésotériques et d'autre part, ils prônaient ce qu'ils appelaient la liberté de la chair. Inutile de faire un dessin. La pratique se traduisait par un laisser-aller moral sans frein et des partouzes à faire rougir un légionnaire romain endurci. Pierre savait que ces faux enseignants étaient des émissaires de Satan et qu'ils étaient motivés par l'amour de l'argent, du pouvoir et le prestige. Il leur reproche donc leur pratique sexuelle débridée ainsi que leur arrogance. Étant donné que ces imposteurs étaient passés maîtres dans l'art de la mystification, ils réussissaient à propager leurs idées démoniaques à des âmes sans méfiance. C'est bien ce qui tenait l'apôtre Pierre en souci et qui l'a motivé à écrire. Bien qu'il sache pertinemment que ses jours sur terre soient comptés, il consacre ses derniers jours à contribuer au bien-être des croyants. La seconde épître de Pierre est en réalité une lettre, car elle s'adresse à un groupe de gens particuliers, sans toutefois que leur identité soit précisée. Cette lettre comporte une salutation et se termine par quelques recommandations ainsi qu'une louange à Dieu. Pierre adopte parfois le ton de la relation personnelle, comme quand il dit « mes chers amis », et quand il cherche à édifier ses lecteurs ou à les avertir des dangers qu'ils courent. Cette épître, cette lettre, pourrait porter comme titre « Le conflit du croyant dans les derniers jours ». L'apôtre la débute et la termine sur le thème de la victoire. Mais dans le corps de la lettre, il se concentre sur la bonne façon de se conduire quand on est pris dans les tourments de la vie chrétienne. Vivre d'une façon fidèle au Seigneur dans des temps difficiles est la leçon que Pierre veut enseigner au moyen de cette petite lettre dynamique. Dans les milieux protestants évangéliques, on ne doute pas de la canonicité de cette seconde épître. Elle a bien sa place dans le Nouveau Testament. Pourtant, depuis son apparition au 1er siècle, cette poignante épître a dû soutenir les foudres des spécialistes sceptiques qui nient que Pierre en soit l'auteur. Il est vrai qu'aucun des pères de l'Église du second siècle ne la mentionne, mais cela n'a rien d'inhabituel, car il cite la première épître de Pierre 29 fois sans nommer son auteur, et l'épître aux Romains 31 fois sans mentionner Paul. Si au deuxième siècle de notre ère, aucun écrit ecclésiastique ne fait référence à cette seconde épître, Justin le Martyr, qui fut exécuté en l'an 165, semble non seulement la connaître, mais il la cite. En effet, dans l'un de ses ouvrages, il dit « Et de même qu'à côté des saints prophètes qui furent chez vous les Juifs, il y avait des faux prophètes, chez nous aussi maintenant, il y a beaucoup de faux docteurs dont notre Seigneur nous a dit à l'avance de nous garder. » Fin de citation. Or, ces paroles semblent bien avoir été empruntées à Pierre quand il écrit « Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. » Fin de citation. De plus, le mot grec pour « faux docteur » qu'emploie Justin est le même que celui pour « enseignant de mensonges » du passage de Pierre que je viens de citer, et dans le Nouveau Testament, il n'y a que Pierre qui l'utilise. Justin s'est donc fortement inspiré de cette seconde épître. Au IIIe siècle, plusieurs sont convaincus que c'est bel et bien l'apôtre qui est l'auteur de deux Pierres et le font savoir. Méthodius d'Olympe, mort martyr lors de la persécution sous l'empereur Dioclétien, affirme catégoriquement que Pierre est l'auteur de cette épître et dans l'un de ses écrits, il a carrément fait du copier-coller puisqu'il cite le passage où Pierre dit « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. » Fin de citation. Le deuxième homme important qui reconnaît en Pierre l'auteur de cette lettre s'appelle Firmilien. Il fut évêque de Césarée dans une province romaine qui couvrait d'à peu près le centre de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Dans l'un de ses écrits, Firmilien fait allusion à la dénonciation des faux frères par l'apôtre Pierre. Or, comme la première épître ne les mentionne pas, c'est qu'il s'agit forcément de la seconde. Le troisième homme est Origène. Père de l'Église et l'un des deux plus grands théologiens de l'Antiquité, il accepta cette seconde épître comme authentique et à ce titre, il l'a inclus dans les livres inspirés de Dieu. Cependant, il fait aussi la remarque que, dans l'esprit de certains, des doutes subsistaient concernant l'identité de son auteur. Au début du IVe siècle, Eusèbe de Césarée, considéré comme le père de l'histoire religieuse, inscrivit cette lettre, ainsi que les deuxième et troisième épîtres de Jean, comme livres inspirés, mais dont la canonicité était contestée. On reproche à la seconde épître de Pierre de ne pas avoir de tradition ecclésiastique derrière elle pour la soutenir. Mais cela peut facilement se comprendre dans la mesure où elle fut écrite un an tout au plus avant le martyre de Pierre. Ce dernier n'a donc pas eu le temps de se faire connaître comme étant le véritable auteur de la lettre qui porte son nom. Il faut se rappeler qu'à cette lointaine époque, l'information ne circulait pas à la vitesse de la lumière comme aujourd'hui, mais plutôt au pas lent de la tortue fatiguée. Toujours au IVe siècle, mais dans la deuxième moitié, Athanase, puis Augustin, deux grands théologiens de l'Église primitive, reconnaissaient de Pierre comme inspiré. Le concile de Laodicée, qui s'est tenu en l'an 372, inclut cette épître dans le canon des Écritures saintes. Les manuscrits volumineux du IVe siècle, Codex Sinaiticus et Codex Vaticanus, ainsi que le manuscrit du Ve siècle, Codex Alexandrinus, comprennent tous la seconde épître de Pierre. Enfin, Jérôme inclut de Pierre dans la Vulgate latine, cette traduction bien connue de la Bible. Personnellement, il acceptait l'authenticité de cette lettre, mais il mentionne encore que plusieurs mettaient toujours en doute la paternité de Pierre, à cause surtout de la différence de style entre les deux épîtres. À n'en pas douter, l'objection la plus sérieuse contre cette seconde épître tient dans la langue qui est très différente de la première épître. C'est d'ailleurs Jérôme qui a le mieux mis en évidence le problème. Mais comme il l'explique lui-même, cette dissemblance peut facilement être attribuée au fait que Pierre a eu recours à deux secrétaires différents pour l'aider à écrire ces deux épîtres. On sait que c'était Silas, aussi appelé Sylvain, qui a rédigé la première. Par contre, on ignore l'identité de la plume pour la seconde. De plus, il faut aussi prendre en compte que pour chaque épître, les thèmes abordés et les objectifs recherchés par l'apôtre ne sont pas du tout les mêmes. Un Pierre a été écrit dans le but de consoler ceux qui étaient persécutés, et deux Pierre afin de mettre en garde les croyants contre les faux frères. Il s'ensuit que les différences de style n'ont rien de surprenante par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre. Cela dit, les deux épîtres de Pierre ont aussi des points communs. Peut-être que vous commencez à trouver tout ça un peu fastidieux, mais de temps en temps, il est utile d'aller dans les détails. Comme je l'ai dit, les deux épîtres donnent des enseignements différents. Pourtant, dans les deux, Pierre mentionne la parole prophétique de Dieu qui est révélée dans l'Ancien Testament. Il mentionne la nouvelle naissance, l'élection souveraine des croyants, la nécessité de vivre dans la sainteté, le jugement de l'immoralité, la seconde venue de Jésus-Christ, le châtiment des impies et la seigneurie du Christ. Quand on considère le vocabulaire en grec, les deux lettres ont la même salutation très inhabituelle qui est « que la grâce et la paix vous soient données en abondance ou vous soient abondamment accordées ». Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, l'un des mots pour « vertu » n'apparaît qu'une seule fois dans toutes les épîtres de l'apôtre Paul, mais est employé trois fois par Pierre, une fois dans sa première lettre et deux fois dans la seconde. Ce n'est pas une preuve irréfutable, mais quand même. Troisièmement, Pierre est le seul auteur du Nouveau Testament à utiliser, et cela dans chacune de ses épîtres, un mot qui veut dire « enlever, se débarrasser de ». Dans la première, il dit littéralement que le baptême ne permet pas de se débarrasser de la souillure de la chair. Certaines versions ont enlevé, lavé, purifié. Dans la seconde épître, et en parlant de sa mort prochaine, Pierre dit littéralement, sachant que bientôt est l'enlèvement de ma tente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a signifié. Certaines versions utilisent les verbes abandonner, quitter, partir. Quatrièmement, dans sa première épître et pour décrire l'excellence morale de Jésus, Pierre dit qu'il était un agneau sans défaut et sans tache. Deux mots seulement en grec. Dans sa seconde épître, il reprend les mêmes deux mots et les applique aux croyants pour les inciter à l'excellence morale à la lumière du retour de Christ. Ce n'est pas tout. Toujours dans la seconde épître, quand Pierre condamne les imposteurs religieux, il reprend encore ces deux mots, mais enlève le préfixe « sans » et dit littéralement qu'ils sont « défauts » et « tâches ». Certaines versions ont taré, souillé, flétri, sali, déshonoré. On trouve aussi des similarités de vocabulaire entre la seconde épître de Pierre et ses sermons que nous rapporte le livre des Actes. C'est ainsi que la même expression « salaire de l'iniquité », diversement traduite selon les versions, ne se trouve que dans la bouche de Pierre. Bon, j'arrête parce que ça commence à devenir longuet, mais il y a d'autres exemples qui montrent que le Simon-Pierre du livre des Actes est bien l'auteur de la seconde épître qui porte son nom. Comme cette lettre a été écrite peu de temps avant la mort de l'apôtre, exécuté par Néron, et que ce despote est mort en l'an 68, la date de sa rédaction se situe aux alentours des années 64 à 68. Pierre se trouve alors à Rome dans un cachot quelconque où il s'attend à être exécuté. Mais comme il peut recevoir des visiteurs qui lui apportent à manger, il apprend l'existence des faux frères et la menace qu'ils font peser sur les assemblées chrétiennes. Étant à la fois un pasteur soucieux et un champion de l'orthodoxie théologique, Pierre adresse cette supplication finale et passionnée à ses croyants d'origine juive et païenne à qui il a déjà écrit et qui sont dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Cette seconde lettre est le chant du cygne de Pierre, tout comme la seconde épître à Timothée l'est pour l'apôtre Paul, et il existe un certain nombre de similarités entre leurs auteurs. Tous deux envisagent leur départ de cette terre dans une très grande sérénité. Paul écrit « En ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. » Tous deux cherchent à ancrer les croyants sur des faits historiques et dans l'enseignement des Écritures. Ces réalités sont la seule défense contre l'apostasie religieuse et contre les imposteurs qui ne manqueront pas de s'introduire dans les assemblées chrétiennes, et elles seules peuvent fonder la foi authentique du croyant et nourrir son espérance en une nouvelle terre où la justice habitera. L'Église doit s'opposer à l'erreur qui l'assaille de l'intérieur ainsi qu'aux attaques qu'un monde incrédule et méchant lance contre elle. Alors que Pierre a écrit sa première épître dans le but de consoler et d'instruire les croyants qui faisaient face à la menace extérieure de la persécution, dans la seconde, il aborde la menace encore plus redoutable des faux enseignants qui s'infiltreront dans l'Église. Il avertit les croyants à rester vigilants afin de pouvoir reconnaître leurs mensonges. Sa description frappante et pénétrante des hérétiques peut se comparer à celle de Jude. Cependant, c'est Pierre qui a écrit le premier parce qu'il emploie le futur dans sa description des faux frères, alors que Jude utilise un temps de verbe qui montre que les apostats sont déjà bien implantés dans les assemblées chrétiennes. Dans cette seconde épître, Pierre décrit également les caractéristiques des croyants mûrs en les incitant à faire tous leurs efforts pour grandir dans la grâce et dans la connaissance afin d'atteindre la pleine maturité. La substantifique moelle de cette seconde épître se trouve dans le dernier verset où Pierre écrit « Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. » Plus que tout autre écrit du Nouveau Testament, cette lettre exhorte ses lecteurs à une connaissance personnelle et intime de Dieu, ce qui est somme toute le véritable but de la vie. Et si vous me demandez quel est l'ultime objectif de l'homme sur terre, c'est de glorifier Dieu.